11 mars 83, Raymond Père Philippe.
C'est moins intime que de l'autre côté, mais j'espère que vous passerez au-dessus. On était donc arrivé, on avait vu la dernière fois, je crois, l'article 3, la grâce est-elle la même chose que la vertu, hein? On l'avait vu entièrement. Non. On n'a pas fini, c'est ce qui me semblait. Je reprends. Hein. Je reprends. Alors, le corps de l'article. Certains ont mis en thèse que la grâce et vertu sont identiques. Quant à l'essence, ils n'admettent entre elles qu'une différence de raison. On dirait grâce en ce sens qu'elle rend l'homme agréable à Dieu, et qu'elle est accordée gratuitement, et vertu en ce sens qu'elle est une perfection qui fait que l'action est bonne. Telle paraît être l'opinion du maître des sentences. Mais si l'on considère la notion exacte de la vertu, cette conception ne peut se maintenir. Aristote dit en effet dans la physique, la vertu est une certaine disposition de ce qui est parfait, et j'appelle parfait ce qui est disposé selon sa nature. D'où il ressort que toutes les fois qu'on parle de vertu, c'est en se référant à une nature préexistante, et il y a vertu quand tout est disposé comme il convient à cette nature. Or, les vertus acquises par les actes humains, dont nous avons parlé précédemment, sont des dispositions qui mettent l'homme dans l'état voulu par sa nature d'homme. Mais les vertus infuses communique à cet homme des dispositions supérieures et l'oriente vers une fin plus haute. Il faut donc que ces dispositions et cette fin soient en rapport avec une nature également plus élevée. Cette nature plus élevée, c'est la nature divine participée, d'après la deuxième épître de saint Pierre. Il nous a mis en possession des plus grandes et des plus précieuses promesses, afin de nous rendre ainsi participant de la nature divine. Et c'est parce que nous recevons cette nature qu'on dit que nous naissons de nouveau pour devenir fils de Dieu. Vous voyez, c'est très très net au point de vue explication de saint Thomas, c'est qu'il y a une nouvelle nature, donc il y a une nouvelle naissance. Vous voyez, et c'est par là que saint Thomas rejoint le texte de saint Jean, de Jésus à Nicodème, il faut une nouvelle naissance. Comme il y a une nouvelle nature, il y a donc de nouvelles vertus, puisque la vertu est donnée pour permettre à la nature de se développer parfaitement. La vertu est toujours relative à la nature. La nature a sa fin propre, et les vertus sont données pour que nous puissions atteindre la fin propre de cette nature. C'est ça tout le raisonnement de saint Thomas. Et pour bien distinguer vertu et grâce, hein, c'est ça le lien. L'idée foncière de cet article, l'analogie entre phusis et arrêté, vertu. La vertu est un habitus. Alors, comme la vertu et l'habitus sont pour permettre à la phusis d'être parfaitement disposée vis-à-vis de sa fin, de même, alors c'est toujours cette analogie au point de vue théologique, hein, et ça c'est très important de comprendre le fondement de cette analogie. De même, lorsqu'il s'agit de la grâce qui est une nouvelle nature, il y a des vertus pour permettre à la grâce d'atteindre sa fin propre, qui est une surfin, puisque c'est une fin surnaturelle. Tandis que le maître des sentences ne voyait pas assez cette analogie. Et le maître des sentences, et c'est ça que saint Thomas critique au maître des sentences, il faisait entre nature, entre vertu et grâce, il n'y avait qu'une distinction de raison. Il n'y avait plus une distinction réelle. Il nous a donc. Et c'est parce que nous recevons cette nature qu'on dit que nous naissons de nouveau pour devenir fils de Dieu. Donc, de même que la lumière naturelle de la raison est distincte des vertus acquises, vous voyez bien l'analogie, hein, et vous voyez sur où porte l'analogie, c'est intéressant à bien le voir, c'est du côté de la connaissance. Parce que c'est du côté de la connaissance que le vieil Aristote regardait les degrés de vie. Les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance et pas du côté affectif. Vous vous souvenez, au début de l'année, nous avions dit qu'il fallait bien voir cela, hein, en faisant allusion au cardinal. Alors, donc, de même que la lumière naturelle de la raison est distincte des vertus acquises, qui pourtant se réfèrent à cette même lumière naturelle, de même, cette lumière de la grâce, qui est une participation à la nature divine, est distincte des vertus infuses qui dérivent de cette lumière et qui lui sont ordonnées. Vous voyez ? Donc, comprenez bien l'analogie, hein ? L'analogie, elle est là. Hein ? Alors, ici, il précise, hein ? Il précise pour que nous ayons quelque chose. Donc, de même que la lumière naturelle de la raison. Il précise dans la phusis, la lumière naturelle de la raison. C'est-à-dire le nous. C'est le nous. De même pour la grâce. Et les vertus vont venir perfectionner le nous. De même la grâce. La grâce est une lumière nouvelle. Elle nous apporte une lumière. Vous voyez que ça joue plus par rapport à la foi. C'est sûr. Mais l'analogie porte sur la grâce et les vertus théologales et la phusis et les vertus. C'est pour ça que cette petite conclusion est assez particulière et intéressante à noter. Sicut igitur lumen naturale rationis est aliquid preter virtutes acquisitas. Donc de même que la lumière naturelle de la raison est distincte des vertus acquises, qui pourtant se réfèrent à cette même lumière naturelle, de même cette lumière de la grâce, vous voyez, cette lumière de la grâce, c'est du reste très beau, la grâce et lumière, hein, c'est faut bien se raconter, bien voir cela. Itiem lumen gratiae. Donc, et lumen gratiae, c'est donc pas la foi. C'est la grâce elle-même qui est lumière, hein, puisqu'elle est d'ordre divin. Dieu est lumière et amour. Donc, de même, cette lumière de la grâce, qui est une participation de la nature divine, est distincte des vertus infuses qui dérivent de cette lumière et lui sont ordonnées. Et c'est pourquoi l'apôtre dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Vous étiez ténèbres autrefois, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des fils de lumière. » De même, en effet, que les vertus acquises perfectionnent l'homme pour qu'il marche selon la lumière naturelle de la raison, de même, les vertus infuses le perfectionnent pour lui permettre de marcher d'après la lumière de grâce. Donc, la foi, c'est pour nous permettre de marcher selon la lumière de grâce. Oui, ça, c'est très beau. Parce qu'elle elle a sa source dans la lumière de grâce. Oui.
Le rapport.
Le rapport de
entre nous, entre l'intelligence, c'est-à-dire la,
oui, la raison, la lumière de la raison,
et les vertus acquises,
oui,
c'est un rapport de puissance.
Oui, c'est l'analogie, c'est pour ça que faisons attention à l'analogie. Hein. L'analogie est très intéressante. Elle pas, voyez bien où porte l'analogie. Hein. Parce qu'autrement, c'est pas, ça ne va pas. Parce que vous avez phusis, c'est phusis, c'est grâce, c'est net. Puis il y a une seconde reprise de l'analogie. Hein. L'analogie est double, si vous voulez. L'analogie est double. Elle est deux. Il y a d'abord ce rapport-là. Puis on ajoute l'humaine de la raison. Ben, l'humaine de la raison, c'est le nous. Mais le nous, comprenons bien, c'est l'âme noétique. Vous voyez ? C'est pas la faculté. C'est l'âme noétique. Parce que, de fait, la nature, la grâce est comme une nouvelle nature. La grâce n'est pas une dynamis. Et donc, c'est comme une âme spirituelle nouvelle. Vous voyez ? Il y a quelque chose de quasi substantiel, si vous voulez. La grâce est un habitus. Elle-même, elle est un habitus. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention. L'analogie porte sur un point, pas sur tout. Autrement, ça ne va pas. Donc, prenons bien le raisonnement de saint Thomas. Le raisonnement de saint Thomas, la vertu, c'est pour nous le but de l'article, hein, c'est de montrer qu'il y a une distinction entre les vertus et la grâce. C'est ça le but. N'est-ce pas ? Et uniquement ça. qu'il y a une distinction entre les vertus et la grâce. Alors, on prend l'analogie entre la phusis et les vertus pour nous montrer la différence entre la grâce et la vertu. Puis, on précise une seconde analogie. Vous voyez ? Alors, la seconde analogie, faisons attention. Parce que si je la fais dévier vers le point de vue de la dynamis, ça ne va plus. Vous voyez ? Mais si je la fais enraciner l'art spirituel, c'est le nous, sur lequel les vertus viennent s'ajouter. Vous voyez ? De même, la grâce, c'est comme une nouvelle âme spirituelle, une âme divine, d'où jaillit la foi. Alors, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est pour ça que je vais souligner, ce qui m'intéresse, c'est l'analogie de vous-même. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant à voir qu'il prend la lumière de la grâce et la lumière de la raison. Et il met ça en parallèle.
Cette lumière, c'est la réalité.
Non. Allez, non, ça ne peut pas. C'est l'âme spirituelle. C'est l'aspect substantiel et l'aspect vertu. Parce que c'est la nouvelle fin qui est important à voir. Vous voyez ? Une dynamis ne donne pas une nouvelle fin. C'est la nature qui a une fin. Vous voyez ? Et c'est ça qui est intéressant à voir. C'est la relation de l'habitus avec la fin. La relation des vertus avec la fin. La fin nouvelle, c'est être enfant de Dieu. Vous voyez ? Alors, réfléchissons un instant là-dessus. Hein, parce que vous voyez bien, si je prends cette chose comme ça, on dira, mais c'est affolant. J'entre dans le point de vue des objectants, si vous voulez. Hein. Les points de vue des objectants en disant, mais saint Thomas est dans un rationalisme effrayant. C'est effrayant comme rationalisme. Il se sert d'une distinction qui est au niveau philosophique pour l'appliquer au niveau de la grâce. Vous voyez bien. Alors, à ce moment-là, vous faites une projection, et c'est ce que diront les orthodoxes. Hein. Les orthodoxes diront, c'est tout simplement une projection du monde philosophique sur la grâce. Et donc, je n'ai plus une lecture de la grâce en toute sa pureté. Vous voyez bien, j'espère. Hein. Exactement comme une projection psychologique, quelquefois, sur l'autre. Tout simplement, on est dans un étage inférieur, on projette. Ça veut dire, c'est constant, ça, les projections psychologiques. On projette sur l'autre qu'on ne connaît pas bien, ça, ses propres difficultés, ses propres distinctions. On les projette sur l'autre et on prétend que c'est l'autre qui les a. Alors, vous voyez ici, cette distinction est une distinction philosophique. C'est la distinction classique de la nature et des vertus. C'est la distinction classique de la substance et des qualités. Donc, c'est une distinction philosophique que je trouve au niveau de la philosophie de la nature et que je retrouve au niveau philosophie première. Et puis, je la projette là-dessus. Vous voyez bien, je la projette sur le point de vue de la grâce. Et à partir de cette distinction, je conclue l'autre distinction. Si je fais ça, vous comprenez bien que c'est inadmissible. Je n'ai pas le droit de projeter mes distinctions philosophiques sur le domaine de la grâce. Je crois que ça, vous le comprenez. Ce serait une très mauvaise philosophie. On ramènerait à ce moment-là le point de vue du mystère de la foi à nos distinctions philosophiques. Et ramener le mystère de la foi aux distinctions philosophiques, mais alors c'est un rationalisme le plus effrayant qui soit. Et si je lis un peu matériellement saint Thomas, vous voyez comment j'aboutis à ça. Parce que ça, j'aboutis à ça. Tableau, je commence par cette distinction et je projette. Alors, qu'est-ce que fait saint Thomas ? Parce que c'est ça qui est intéressant de voir. Qu'est-ce que fait saint Thomas ? Bien, saint Thomas ne fait pas ça du tout. Ça, ce serait très mal comprendre saint Thomas. Ce serait justement le comprendre d'une façon systématique et alors le comprendre d'une façon extérieure. En réalité, c'est pas ça du tout. La distinction vertu et grâce lui est donnée dans la tradition. Et pour nous, elle nous est donnée par le Concile de Trente. Le Concile de Trente nous dit qu'il y a une distinction entre les vertus théologales et la grâce. Donc, c'est l'enseignement de l'Église. C'est un enseignement actuel pour moi. Je sais, dans ma foi, et saint Thomas savait dans sa foi, qu'il y avait une distinction entre la grâce, qui était une nouvelle naissance, et les vertus de la garde. Il le savait. Et s'il veut nous faire comprendre, en se servant d'une analogie, du type particulier de cette distinction. Donc l'analogie n'est pas pour nous faire découvrir l'existence de la distinction, mais la signification de la distinction. Oui. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Parce que si c'était une projection qui nous permettait, justement, à partir des distinctions philosophiques, de conclure des distinctions du mystère, ce serait faux. Oui. Tandis qu'au contraire, la foi me donne l'aspect existentiel. Je sais qu'il existe des vertus théologales distinctes de la grâce. La foi ne me dit pas le rapport exact qui existe entre les deux. C'est le théologien qui doit préciser les rapports. Et le théologien précise les rapports par une analogie. Oui. Alors ça fait quelque chose de tout à fait différent. Il faut bien comprendre que la foi me donne toujours l'aspect de l'existence. C'est jamais le raisonnement théologique qui touche le point de vue de l'existence. Exactement comme pour la philosophie. Le jugement d'existence est premier. Le jugement d'existence est donné dans la foi. Dans la foi m'est donné ce jugement d'existence. Il existe la grâce existe, et les vertus théologales existent. Comment comprendre la relation entre les deux ? Pour comprendre la relation entre les deux, je me sers d'une analogie. Oui. Alors saint Thomas, lui, parce qu'au Moyen-Âge, on pouvait être naïf, d'une sainte naïveté, saint Thomas vivrait aujourd'hui, il nous rappellerait ça constamment. Ça, j'en suis sûr. Pour que nous ne tombions pas dans cette espèce d'erreur, qui est la grosse erreur de faire croire que, par le point de vue philosophique, nous pouvons découvrir des distinctions qui sont des distinctions du mystère. Les distinctions sont données dans la foi, mais les précisions de ces distinctions, nous les avons grâce à l'analogie. Il faut bien voir ce que l'analogie nous donne et ce que l'analogie ne nous donne pas. Oui, c'est pour ça que c'est même la réponse pour vous tout à l'heure. L'analogie est uniquement pour essayer de préciser que la grâce est en liaison avec la fin, comme la nature, comme le lumen au sens fort. Vous voyez ? Alors, si vous voulez, on a vu aussi une des raisons était anoétique. On comprend mieux, c'est l'anoétique, c'est le niveau de la substance qui est liée à la fin. Parce que c'est par la substance que je suis lié à la fin. Ce n'est pas par la dynamis comme tel. Pas par la vitus, si vous voulez. Vous voyez bien ça, j'espère. Ça, c'est très important, ce que je souligne là. Parce que ce sont des objections que vous trouverez. Alors, si vous êtes incapable de répondre, hein, vous direz, espèce d'imbécile, vous avez lu saint Thomas, vous avez été saint Thomas. Alors, il faut leur dire tout simplement, mais vous ne comprenez pas saint Thomas. Vous ne savez pas saint Thomas. Vous lisez mal saint Thomas. Regardez, c'est pas ça du tout, dit saint Thomas. Oui.
Je comprends ce que vous voulez dire, mais je me demande quand même si dans quelle mesure saint Thomas ne fait pas l'analogie, non pas avec directement l'âme éthique, mais avec la dynamis. Donc, non. Ce que la vertu acquise est à la dynamis, l'âme l'est. La grâce.
Reprenez.
Ce que la vertu acquise serait à la dynamis, la grâce serait à la
dynamis. Oui, on est au niveau des habitus. Alors, je veux bien, mais regardez bien la première analogie que donne saint Thomas. Prenez, puisqu'il y a deux aspects dans l'article. Hein. Bon. Alors, il y a premier point de vue, c'est très net. Fousis, c'est vertu. Grâce et vertu. Bon. Second moment, qui reprend en disant donc, hein, vous voyez bien, hein, c'est ça qu'il faut. Sicutigitur, vous voyez bien. Donc la seconde analogie est commandée par la première, vous voyez. Et la seconde analogie n'est pas une nouvelle analogie, C'est tout simplement, on reprend, si vous voulez, pour mieux préciser, avec le point de vue même de l'écriture. Pour montrer qu'on ne s'écarte pas de l'écriture. Et alors on prend le langage de l'écriture, le lumen. Donc c'est beaucoup moins précis, vous voyez ? C'est beaucoup moins précis. Parce qu'on revient à l'écriture. L'écriture est toujours moins précise. La première analogie, c'est vraiment l'appel à la philosophie. Et puis alors, on prend sic igitur. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est tout simplement donc nous pouvons comprendre que. Donc, nous pouvons comprendre que, comme au point de vue naturel, il y a la lumière naturelle et il y a les vertus qui viennent s'ajouter, de même, nous avons la lumière de grâce et nous avons les vertus. C'est comme ça que je comprends. C'est pour ça que je ne dirais pas que la seconde est précise. La seconde, c'est au niveau de vous-même, pour rejoindre l'écriture.
Alors, quand il dit vous-même, la lumière de la raison naturelle, est-ce qu'il dit nécessairement l'âme qui vient à la puissance ?
Je ne crois pas que c'est la puissance.
Ça pourrait être
la puissance, mais ça n'a pas d'importance. Vous voyez ? Ça n'a pas d'importance. L'analogie ne porte pas là-dessus, c'est ce que je disais. C'est ça. C'est toujours le point de vue de la fin. Vous voyez ? C'est le rapport, je crois, vertu-fin. Habitus fin qui est le propre de l'analogie. C'est toujours, quand il s'agit de l'analogie, c'est ça la difficulté de l'analogie. C'est comme un peu comme les paraboles. Hein. L'analogie ne porte jamais sur tout. C'est un procédé qualitatif de la pensée. Et donc l'analogie porte sur un point. Et met ce point en pleine lumière. Mais jamais sur le tout. Autrement, ça deviendrait grossier comme démonstration. Vous voyez ? Tandis que c'est très fin. C'est la différence avec la dialectique. La dialectique porte sur tout. Tandis que jamais l'analogie. Elle est qualitative, l'analogie. Elle n'est pas quantitative. Alors c'est le rapport, vous voyez, moyen-fin. Je crois que c'est ça le point de vue. Et alors ce rapport moyen-fin, en comprenant que l'aspect existé est donné dans la foi, et qu'on se sert d'une analogie pour préciser. Oui, 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 oui. Et puis d'autre part, nature.
Est-ce
toujours.
Qu'on ne peut pas dire que la grâce est en elle-même un habitus et on en fait une analogie quand on dit qu'elle est.
Non. Participation à la nature de Dieu.
Ça serait l'analogie.
Ah, oui. Ça, je crois que tout le traité de la grâce de saint Thomas aura deux analogies. Le point de vue de la physis, donc le point de vue de la nature. La grâce est une nouvelle nature et la grâce est un habitus.
Mais quand on dit que la grâce est un habitus, est-ce que c'est une analogie?
L'analogie théologique la plus précise est celle-ci. Et ici, c'est le fondement de l'écriture. Parce que par la nature, c'est la naissance. Et donc, ceci est premier et beaucoup plus fondamental. Et ceci est second et beaucoup plus précis.
La grâce est nécessairement un habitus au niveau de l'être.
Au point de vue de la révélation, donc au point de vue de la foi, ce qui est de plus formel, voyez, et de plus fondamental, c'est que la grâce est une nouvelle naissance. Donc, elle est comme une nouvelle nature. Et au point de vue théologique, une précision plus formelle, la grâce est un habitus.
Est-ce que c'est une analogie,
selon vous ? Ah oui, c'est une analogie. Oui. Ah oui, c'est sûr. Pourquoi pas que c'est une analogie ?
Parce que c'est.
Mais non, mais c'est. Au fond. Tout le procédé de la théologie, ça consiste toujours à nous servir de deux analogies qui philosophiquement sont irréductibles et qui, grâce au mystère, nous aident à regarder le mystère. On a deux lumières. Pour moi, c'est la raison pour laquelle il y a les deux récits de la création. Vous voyez ? Dieu nous indique lui-même. Il nous donne deux récits de la création. Ce n'est pas inutile. Comment Dieu ne serait un bavard ? Dieu ne bavarde jamais. Donc s'il nous donne deux récits de la création, c'est pour nous habituer à comprendre que nous ne pouvons jamais regarder le mystère dans une seule direction. Il faut deux lumières différentes. Or, ici, il s'agit de regarder le mystère de la grâce. Le mystère de la grâce nous dépasse infiniment, puisque de fait, nous pourrions, si on comprenait la grâce, on comprendrait la très sainte Trinité. Donc, nous ne pouvons pas comprendre la grâce. La grâce dépasse infiniment. Alors, nous nous servons de deux analogies qui humainement, au point de vue humain, sont contradictoires. Parce que la nature, c'est quelque chose de fondamental, et la grâce et l'habitude, c'est quelque chose de second. On ne peut pas être en même temps dans l'ordre philosophique, on ne peut pas être en même temps nature et habitus. Hein, c'est contradictoire. C'est contraire à la distinction de l'ousia, la substance et la qualité. Alors, au contraire, quand il s'agit du mystère de la grâce, cette chose très étonnante, et c'est ça que ça nous... C'est en ce sens-là que le Saint-Esprit, tout le temps, nous rappelle que nous sommes des enfants et que nous ne connaissons rien du tout. Parce que le Saint-Esprit, le mystère de la grâce qui nous échappe complètement, eh bien, nous servons de deux lumières. Nous avons une double manière de regarder la grâce, nature et habitus. Alors, ce qui est important, c'est de voir laquelle de ces analogies est plus fondamentale. Laquelle est première au point de vue de la foi. Et laquelle est une précision nouvelle. Oui.
En d'autres cas, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y aurait deux niveaux d'intelligibilité, le niveau de la vie, et, c'est-à-dire que tout est regardé par rapport à Dieu, on parle alors de nature, et le niveau de l'être, c'est le point de vue de la créature, que personnellement, j'aurais tendance à dire qu'il est plus fondamental par rapport à
l'être. Mais non, c'est plus matériel du côté de la foi.
Oui, plus matériel, d'accord, et plus fondamental pour ce qui est la science théologique.
Non, c'est vrai, non. C'est l'inverse dans l'ordre surnaturel.
Oui,
dans l'ordre surnaturel. Ah, je suis dans l'ordre surnaturel quand je suis en théologie.
Oui, mais la théologie, c'est une connaissance.
Ah, c'est une connaissance à partir de la foi. C'est pas une connaissance à partir de la philosophie. Donc, ce qui est de plus précis, c'est le point de vue de la vie. Qui passe avant l'être. C'est très important parce que ça fait comprendre comment, lorsque vous laïcisez la théologie, et vous ne voyez plus ça du tout. Deux analogies, il y a une analogie au niveau de la vie nature et une analogie au niveau de l'être habitus.
Est-ce que je ne veux pas dire qu'en fait ça ne paraît pas être une analogie parce qu'il n'y a aucun autre exemple, expérience d'habitus quantitatif. Et donc c'est le théologien qui
porte un peu ce... L'analogie ne porte pas sur l'habitus quantitatif mais sur l'habitus. L'analogie porte sur habitus, moi je ne veux pas habitus quantitatif là. L'analogie porte sur l'habitus. Et vous dites, la grâce est un habitus. Et vous corrigez tout de suite pour que vous ne tombiez pas dans le piège en disant habitus quantitatif. Mais l'analogie porte sur habitus. Donc il y a bien deux analogies, la nature et l'habitus.
Et dire habitus quantitatif, est-ce que c'est pas faire la synthèse des deux?
Non, parce qu'on ne veut pas la faire. Je ne fais pas de synthèse.
Pas une vraie synthèse.
Non, pas du tout. Je crois que je maintiens toujours cette double lumière, nature et habitus. L'un du côté de l'être, l'autre côté du côté de la vie. Et du côté de la vie, c'est plus formel dans le sens que c'est cela qui est premier. Parce que l'ordre surnaturel est pour moi plus profondément saisi par le point de vue de la vie que le point de vue entitatif. Oui. Et les orthodoxes diront juste l'inverse. Ça qui est très, très curieux. Les orthodoxes diront toujours, nous sommes dans l'ontologie. Tandis que les catholiques, avec saint Augustin et avec saint Thomas, sont dans la psychologie. Parce qu'ils sont au point de vue de la vie. Mais la vie n'est pas nécessairement psychologique. C'est là la confusion. On peut avoir une vision de philosophie de la vie qui n'est pas la psychologie. Parce qu'il y a le point de vue de la finalité. C'est très intéressant de voir ce langage, si vous voulez, des orthodoxes par rapport à ce que nous disons, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez un peu ça. Il faut arriver petit à petit hein, à saisir, d'une façon générale, dans tous les traités de saint Thomas, il faut saisir les deux clés. Il y a toujours deux analogies qui, au fond, se combattent. C'est Jacob et Ésaü. Ils sont tous portés par la même mère, mais ils luttent, et l'un veut passer avant l'autre. Alors on voit très bien ça, c'est Jacob et Ésaü. Alors on voit très bien la lutte entre les deux, et c'est vrai, la grâce est nature, la grâce est habitus. Alors ce qui est très important, vous voyez, c'est que vous avez la clé de toute la pastorale moderne et de toute la pastorale ancienne. Toujours, c'est toujours cette une. Si vous avez une conception de la grâce uniquement comme habitus, ou une conception de la grâce uniquement comme nature, il faut avoir la conception des deux. Parce que si c'est une nature, la grâce apporte une nouvelle vie. Donc elle a une nouvelle finalité et on doit adapter les autres à cette finalité. Alors que si la grâce est habitus, elle doit s'adapter aux autres. Alors vous avez la pastorale de l'adaptation et la pastorale de la finalisation. La pastorale de la finalisation, c'est de rappeler aux gens qu'ils doivent s'élever, se transformer et devenir des saints. Alors là, vous les finalisez par une nouvelle fin qui n'est pas une fin naturelle. Tandis que la pastorale de l'adaptation, c'est justement dire, mais oui, soyez parfaitement homme et vous serez chrétien. Puisque le Christ est venu cela. Vous voyez ? Alors, je pousse un peu, mais au fond, c'est ça. Vous voyez ? C'est le point de vue de l'habitus. La grâce vient perfectionner la nature, alors que la grâce porte la nature. La grâce ne fait pas seulement perfectionner, la grâce porte la nature parce que la grâce nous a... C'est justement dire, mais oui, soyez parfaitement homme et vous serez chrétien. Puisque le Christ est venu cela. Oui. Alors, je pousse un peu, mais au fond, c'est ça. Vous voyez, c'est le point de vue de l'habitus. La grâce vient perfectionner la nature, alors que la grâce porte la nature. La grâce ne fait pas seulement perfectionner, la grâce porte la nature, parce que la grâce nous apporte une nouvelle vie, une vie divine. Alors, nous apportant une vie divine, elle nous donne un nouveau regard, surtout. Et il y a un rythme propre de la grâce, qui est le rythme de cette nature divine en nous. Le rythme de la grâce va assumer tout le reste. Et je ne mettrai pas le point de vue de l'habitus au service de mon rythme humain.
Oui. Si on insiste uniquement sur la grâce de la nature, est-ce qu'on ne sera pas conduit depuis l'église ? Je ne coopère pas.
C'est le danger, c'est sûr. Le danger de ne prendre qu'une seule analogie, c'est d'en tomber dans un point de vue, justement, de cette nature qui enveloppe tout. Et puis la nature est corrompue, ça n'a pas d'importance. Alors vous auriez Luther au terme. Luther ne prend que cette analogie. Et Pélage ne prend que celle-là. Oui. Pélage et Luther étant les deux extrêmes. Et alors j'ai dit, on est en Pélage. On est aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, parce que la fameuse querelle, il ne faut pas l'oublier, la fameuse querelle Déoxylis. Hein. Je crois qu'ici on n'a rien sur Déoxylis à la bibliothèque. Hein. On ne doit pas avoir beaucoup de livres, le bibliothécaire, sur le Déoxylis. C'est la querelle du Déoxylis, qui est très importante au point de vue de la grâce. C'est la querelle entre les jésuites et les dominicains. Vous voyez ? Alors, les dominicains maintiennent le primat de la nature et les jésuites le primat de l'habitus. Et alors, ça a été tellement fort, pendant 100 ans, ils se sont disputés comme de bons théologiens, recherchant la vérité, que l'Église aura dit « taisez-vous ». Alors, ils se sont tués. Parce qu'à ce moment-là, les théologiens étaient obéissants. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est le point de vue jésuite qui l'a emporté. Parce que c'est plus facile, vous voyez ? C'est plus facile de considérer que la grâce perfectionne la nature que de considérer que la grâce assume la nature. C'est là, il y a... toute la spiritualité repose sur une théologie. Ça ne peut pas être autrement. Et ne faisons pas l'inverse, hein, en disant la spiritualité va nous donner une nouvelle théologie. Mais non, la théologie est objective, la spiritualité est subjective. Donc c'est toujours la théologie qui fonde la spiritualité. La théologie qui fonde sur l'enseignement de l'Église. Bon, alors, je vois vite la réponse aux objections. Saint Augustin dit dans son ouvrage sur l'esprit et la lettre que la grâce qui opère, c'est la foi qui opère par l'amour. Or, la foi qui opère par l'amour, c'est une vertu, donc la grâce serait une vertu. Ça, c'est très simple. parce que c'est le langage de saint, la grâce qui opère, hein, vous comprenez bien, gratia operans, es fides, la gratia operans. Alors, saint Augustin donne le nom de grâce à la foi qui opère par l'amour. C'est parce que cet acte de foi opérant par la charité est la première manifestation de la grâce sanctifiante. Autrement dit, le langage de saint Augustin n'est pas précis, et puis c'est tout, c'est ça que ça veut dire. Alors ne précisez pas sur le langage de saint Augustin, il dit ça avec beaucoup de respect, vous voyez. Mais au fond, c'est tout simplement que c'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, deuxième objection, les définitions que les saints, aussi bien que les philosophes, donnent de la vertu, conviennent également à la grâce. C'est elle qui confère la bonté à celui qui la possède, ainsi qu'à l'œuvre qu'il accomplit. Ça, c'est une jolie définition de la vertu. Facit bonum habentem et opus eius bonum reddit. Donc, la vertu bonifie la personne et elle permet à la personne de faire des œuvres bonnes. Donc, la grâce, c'est la vertu. Elle est de même cette bonne qualité de l'âme qui fait qu'on vit dans la justice. Alors, réponse. La bonté dont il est question dans la définition de la vertu exprime toujours une relation de convenance à une nature préexistante, soit essentielle, soit participée. Ce n'est pas en ce sens qu'on attribue la bonté à la grâce, c'est en tant qu'elle est la racine de la bonté dans l'homme. Oui, donc ici, de nouveau, on rappelle que la grâce n'est pas quelque chose de second, mais qu'elle est au contraire quelque chose de radical. Cette sicut radici bonitatis est nominée. Ça, je ne peux pas le dire d'un habitus. Je peux le dire que de la nature. Alors, troisième objection, la grâce est une qualité. Mais il est manifeste qu'elle n'appartient pas à la quatrième espèce de qualité, qui est la forme et la figura, puisqu'elle n'est pas corporelle. Elle n'est pas non plus de la troisième espèce. Alors ça, c'est très joli comme objection. Ça, c'est l'objection logique, vous voyez, en montrant la grâce n'entre pas dans les catégories. Or, l'habitus de l'âme sont dans les vertus, car même la science est une vertu d'une certaine façon, ainsi qu'on l'a dit plus haut. Donc la grâce est la même chose que la vertu. Vous voyez ? Alors on montre le parallélisme entre les catégories et la grâce. Alors réponse de saint Thomas, la grâce se ramène bien à la première espèce de qualité, mais il ne s'ensuit pas qu'elle s'identifie à la vertu. Ça c'est très bien. Vous voyez, voilà l'analogie. Gratia reducitur ad primam speciem qualitatis, non nec tamen est idem quod virtus. Oui. Elle a quelque chose d'analogue à l'habitus, mais elle n'est pas identique à la vertu. C'est comme ça que vous... Et là, on voit bien ce que c'est que l'analogie. Mais il ne s'ensuit pas qu'elle s'identifie avec la vertu. Disposition antérieure aux vertus infuses, elle en est le principe et la racine. Radix est principium. Donc elle est la source des vertus. La grâce est la source des vertus infuses. Elle est la radix, la racine, la source. Article 4, on commence tout de suite. Article 4, la grâce a-t-elle pour sujet l'essence de l'âme ? Ou bien l'une de ses puissances. Là, on va préciser où se trouve l'enracinement de la grâce. On a précisé ce qu'elle était, qu'elle n'était pas les vertus, qu'elle avait quelque chose de plus radical. Elle est radix, elle est principium, elle est natura. Ça, c'est tout à fait la ligne de voir. Donc, la grâce est dans l'ordre de la nature. Elle est nature. Elle est radix, elle est principium. Voilà toutes les analogies que nous pouvons dire. Et elle a quelque chose qui l'apparente à un habitus. Et vous voyez, ce raisonnement prend un tamas, et c'est très intéressant, ce qui montre bien que la première analogie, c'est la nature, et la seconde, c'est l'habitus. Autrement, ce qu'il nous disait là, on ne porterait pas. Alors maintenant, on va regarder où s'enracine la grâce. Alors, je prends tout de suite la réponse. Par la grâce, nous naissons de nouveau et devenons fils de Dieu. Or, la génération a pour terme l'essence, antérieurement aux facultés. Donc, la grâce réside dans l'essence de l'âme antérieurement à ses facultés. C'est quelque chose de tellement radical, la grâce, qu'elle est au terme, justement, d'une nouvelle naissance. C'est ce qui nous fait comprendre, mais c'est toujours l'enseignement de notre Seigneur à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de l'esprit et de l'eau. Eh bien, vous ne pourriez absolument pas comprendre ces paroles de Jésus si vous ne regardez pas la grâce comme une nouvelle nature. Et c'est très vrai, c'est ce texte-là qu'on doit prendre aujourd'hui. Oui, en face de ces conceptions de la grâce qui sont uniquement perfectionnement de la nature. Il faut rappeler que Jésus dit à Nicodème que c'est une nouvelle naissance. Et il dit ça d'autant plus fort à Nicodème que Nicodème est persuadé, en bon docteur de la loi, qu'étant bien né, parce qu'il est né d'Abraham, il n'a pas besoin de grâce. Et Jésus lui fait comprendre qu'on ne peut entrer dans le royaume de Dieu que si on a la grâce. Et qu'il y a une nouvelle naissance. Alors, voici le raisonnement de saint Thomas. Cette question dépend de la précédente. Si en effet la grâce est la même chose que la vertu, nécessairement elle a pour sujet une faculté de l'âme. Car ce sont les facultés de l'âme qui sont les sujets propres des vertus, comme nous l'avons exposé précédemment. Si au contraire la grâce est distincte de la vertu, il est impossible de prétendre qu'une puissance de l'âme soit le sujet de la grâce, puisque toute perfection d'une puissance de l'âme est une vertu, nous l'avons également montré. Étant donné donc que la grâce est antérieure à la vertu, il faut que son sujet soit antérieur aux puissances. C'est l'essence de l'âme. Et de même, de nouveau l'analogie, et de même que dans sa connaissance intellectuelle, l'homme participe à la connaissance divine par la vertu de foi, et que dans sa faculté de vouloir, il participe à l'amour divin par la vertu de charité, ainsi, dans la nature de son âme, il participe selon une certaine similitude à la nature divine par une sorte de génération ou de création nouvelle. Une recréation. Une reprise radicale de tout. Alors vous voyez, ça c'est très très joli pour montrer comment vie implique être. Bon. Alors vous voyez, le raisonnement est simple. Une fois qu'on a compris celui-ci, c'est tout simplement la conséquence. Tout simplement, la conséquence directe. Si la grâce est premièrement une nouvelle nature et une nouvelle naissance, elle est nécessairement enracinée dans l'âme avant les facultés. Puisque, en tant que nature, elle s'enracine dans l'essence même de l'âme qui est source de toutes les facultés. Vertu théologale, parce que justement ce sont des habitus avant tout, et c'est pour ça qu'on dit vertu théologale.
Les vertus théologales, on les conçoit plutôt par rapport à.
Mais ce sera la même chose, les vertus théologales, on les conçoit d'abord par rapport à la grâce, et comme on dira habitus, pour bien montrer qu'elles sont dans la fin. Et en même temps, on rendra l'autre point de vue, c'est qu'elles sont aussi des puissances. Ce sera les deux analogies qu'on prendra. Mais alors, vous les prendrez dans un autre sens. C'est ça qui est très curieux, vous voyez. Les vertus théologales. quand vous prenez les vertus théologales, vous dites, elles sont vertus, donc habitus, en premier lieu. Puis, elles sont dynamis, puissance. Elles sont habitus parce qu'elles sont ordonnées à la même fin. Elles sont dynamis parce qu'elles ont un nouvel objet. Et vous avez les deux analogies, exactement. Vous ne pouvez pas ramener les vertus théologales uniquement à l'habitus. Elle est présente quand il dit qu'il y a une nouvelle de Dieu.
Oui, mais il l'explicite pas.
Il l'explicite très peu.
Et pas dans son traité de...
Très peu, très peu. Mais elle est présente. Ça, on ne peut pas la supprimer. Vous voyez, elle est présente. Puisque les vertus théologales émanent immédiatement de la grâce. Comme les puissances émanent immédiatement de la chose. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Propriété. Oui. Oui, oui. À la rigueur, je peux dire propriété, mais c'est, au fond, au sens rigoureux, c'est pas propriété. J'aime mieux dire, elles émanent de la grâce comme des puissances nouvelles et comme des habitus. Comme des habitus et des puissances. Bon, voyons tout de suite la réponse aux objections. Première objection, saint Augustin dit, vous voyez que saint Augustin est très présent, hein, c'est ça qui est intéressant ici. Au fond, le dialogue de saint Thomas au point de vue de la grâce est toujours par rapport à saint Augustin. Tout le temps. C'est les deux qui sont, c'est ça qui est important à saisir. Hein. Quand on voit les objections dans saint Thomas, c'est de saisir les sources et en même temps des sources qui sont quelquefois déviées. C'est évident que dans la grande tradition latine, le grand-père de toute la théologie, c'est saint Augustin. Surtout au point de vue de la grâce. Et non seulement au point de vue de la grâce, mais tout le traité de la très sainte Trinité et tout le traité du Christ. C'est saint Augustin qui est le grand-père. Alors, saint Augustin est à tendance néo-platonicienne. Et saint Thomas est à tendance aristotélicienne. Vous voyez, un petit combat, n'est-ce pas, entre les deux. Et alors, le respect extraordinaire de saint Thomas vis-à-vis de saint Augustin en tant que père de l'Église et la précision de saint Thomas par rapport au néoplatonisme de saint Augustin pour se servir d'un scalpel beaucoup plus précis, une arme beaucoup plus précise, la pensée aristotélicienne. C'est très très amusant, c'est très intéressant de voir ça, parce que c'est quand même une coopération, vous voyez, de deux génies qui ont la même foi, qui ont le même désir de vérité, et qui ont deux structures mentales très différentes. Parce que la structure mentale de saint Augustin, c'est un rhéteur, et la structure mentale de saint Thomas, c'est un métaphysicien. Alors ordinairement, quand vous mettez un métaphysicien en face d'un rhéteur, ça fait des étincelles. Il faut toute l'huile de la charité pour que de fait, ça ne fasse pas des étincelles, mais que ça fasse une complémentarité. C'est ce qui est extraordinaire. C'est tout ça très beau, au point de vue, si vous voulez, au point de vue de ce que ça représente comme coopération. Hein. Et au fond, on doit faire la même chose quand on est en face de néoplatoniciens. On doit coopérer en comprenant que oui, ils sont néoplatoniciens, c'est très bien. Ils pourront nous dire certaines choses que nous ne disons pas la même chose. Alors, mais nous maintiendrons l'importance de l'aristotélisme au point de vue précision. Alors, saint Augustin dit que la grâce est à la volonté ou au libre arbitre comme le cavalier au cheval. Ça, c'est tout à fait rhétorique. Hein. Vous voyez l'analogie. C'est le cavalier au cheval. Hein. Donc, la grâce est à la volonté. Or, la volonté est une puissance de l'âme. Donc, la grâce a pour sujet une puissance de l'âme. Vous passez d'une analogie métaphorique à une analogie propre. Hein. Vous voyez la combine. Hein. Ça fait quelque chose d'assez vasouillard. Alors, voyons la réponse de saint Thomas. De l'essence de l'âme découlent ses puissances, qui sont le principe de ces opérations. Pareillement, de la grâce découlent les puissances de l'âme, pareillement, de la grâce découlent sur les puissances de l'âme les vertus qui meuvent ces puissances à leur acte. Dès lors, si la grâce est comparée à la volonté, c'est comme le moteur à son mobile. Et c'est ainsi qu'il faut entendre la comparaison du cavalier à son cheval, et non comme l'accident par rapport à son sujet. Vous voyez le respect de saint Thomas. Vous arrivez à la place de saint Thomas, oh non, je ne réponds pas à ça, c'est trop métaphorique. Pas du tout, pas du tout. C'est une métaphore, qui signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Puisque ça vient de saint Augustin, c'est assez lourd. Dès lors, si la grâce est comparée à la volonté comme le moteur à son mobile, c'est ainsi qu'il faut entendre la comparaison du cavalier à son cheval. Et non comme l'accident par rapport à son sujet. C'est à 10h10, écart, c'est pas 10h. Peut-être arrêté, hein. Parce que j'entends du bruit. J'entends des bruits.